Bonsoir Isabelle Carré.
Eh bien, bonsoir.
Alors, on est heureux de vous retrouver cette fois avec deux ouvrages.
Oui.
Vous venez nous présenter Le jeu des scies, qui est un roman, et La mère dans son jardin, qui est un album illustré par Kasia Denisevitch.
Kasia Denisevitch,
voilà, oui. J'espère que je le prononce bien. Les deux sont aux éditions Grasset.
Oui.
On va commencer par plonger dans votre roman, puisque finalement, on y reviendra, mais l'album a une petite tonalité. On a l'impression que vous avez extrait un morceau.
Oui, oui, c'est ça.
D'accord. Donc, on est bon.
Un rêve.
Donc, du coup, on y viendra un petit peu plus tard.
Oui.
Dans le jeu des si, vous imaginez qu'un personnage change tout d'un coup de vie en répondant à une annonce dans un aéroport. Voilà, elle part, c'est pas son nom, mais elle suit le chauffeur. Et vous dites à propos de ce personnage qu'elle veut disparaître.
Mm-hmm.
Alors, je m'arrête sur ce mot, parce que vous auriez pu dire beaucoup d'autres choses.
Mmh.
Fuir, changer de vie. Non, vous choisissez disparaître. Comme par ailleurs, votre personnage, vous lui faites dire qu'elle se sent transparente, que tout est toujours de sa faute. Donc, je voudrais savoir où vous en êtes de votre petit syndrome de culpabilité, Isabelle Carré.
Oui, il est bien là. On est d'accord. Bah, disparaître, oui, c'est disparaître pour mieux recommencer.
Ok.
C'est peut-être ce que je fais d'ailleurs quand je suis comédienne.
Oui.
Je disparais derrière des personnages que je joue, que j'interprète, mais peut-être pour être davantage moi-même, bizarrement. Je m'explique, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Marivaux qui dit « Des acteurs, ils font semblant de faire semblant ». Oui, peut-être que en ayant ce luxe d'être sur scène et de rentrer dans une autre histoire, d'être protégée par le cadre de la scène, je peux tout me permettre, puisque je suis protégée par le cadre de la scène, par un maquillage, un personnage, un texte, je peux absolument tout me permettre. Et en fait, cette chose que je vis dans mon métier de comédienne depuis maintenant 33 ans, je commençais très jeune, j'avais envie de m'exercer à cet exercice-là, oui, de m'exercer à ça dans un roman.
Justement, ce personnage, vous lui permettez d'être plus libre ? Parce que dans sa disparition,
exactement,
elle est incroyablement plus épanouie et plus heureuse. Vous avez déjà eu envie, de rester dans un de vos personnages ?
Oui.
Lesquels ?
Ah oui, il y a plusieurs personnages. Mademoiselle Else, par exemple, même si j'étais très heureuse, c'était une pièce de Schnitzler que j'ai jouée pendant 7 mois et demi à Paris tous les soirs. Et la pièce faisait 1h40 et je ne sortais pas de scène. Donc j'étais très heureuse quand ça s'est arrêté, parce que c'était quand même très exigeant, même émotionnellement parlant, c'était très exigeant. Mais un détail qui tue, j'avais des rajouts pour jouer ce personnage très, très romantique comme ça, des longs cheveux, et que j'ai enlevé quand c'était fini. Et pendant des mois, j'ai rêvé que je perdais mes cheveux. Et aussi que j'avais une sœur, qui était aussi une amie, qui me tenait la main et qui lâchait ma main et que je perdais. Voilà, je rêvais de ça toutes les nuits, pendant des mois. Anna M, que j'ai tournée ici à Lyon.
Là, on est à Bordeaux.
Ce souvenir des belles choses. Que j'ai tourné ce souvenir des belles choses. Ben là aussi, j'ai eu beaucoup de mal. À Lyon aussi, avec Anna M, j'ai eu du mal à quitter ce personnage. Mais là, c'est ce souvenir des belles choses. J'ai eu tellement de mal à quitter les écureuils. C'était cet endroit où on était, nous autres, les malades d'Alzheimer, dans ce film. Je voulais retourner aux écureuils. J'ai enchaîné avec une pièce de Shakespeare, Othello, et j'aimais bien dire du Shakespeare, mais je voulais retourner aux écureuils.
Mais alors quoi, la colonne vertébrale de ce livre, c'est une façon de faire le point pour vous sur la contrainte du quotidien qui fait qu'on rêve à un moment donné de tout lâcher et d'être enfin soi-même, c'est ça ?
C'est un livre sur les vies multiples. C'est sur la possibilité je crois aux secondes chances. Et je crois qu'on n'a pas qu'une vie, qu'on peut en avoir plusieurs, y compris dans sa tête. Quand je monte sur scène, pour moi, c'est pas moins réel que la vie. Peut-être même c'est plus réel. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup aidée à écrire ce livre. C'est une phrase de Kundera. Pour moi, il y a un avant et un après l'insoutenable légèreté de l'être. Et Kundera dit « Qui cherche l'infini n'a qu'à fermer les yeux. » Et je pense à ça, et d'autant plus que je l'ai pensé pendant le confinement. Moi qui voulais écrire un livre sur les secondes chances, sur les vies multiples, sur la liberté de recommencer, de changer de vie, d'aller vivre ailleurs, d'être en pleine nature, d'être... Voilà, liberté. Voilà que pendant cette écriture, nous étions enfermés. C'était quand même incroyable d'écrire sur la liberté, de se retrouver à devoir aller acheter des pots de yaourt avec son passeport et une autorisation qu'on signe à soi-même. J'ai eu besoin, oui, de fermer les yeux à ce moment-là et d'ouvrir vraiment mon esprit, mon imaginaire et de vivre tout ce que je ne pouvais pas vivre dans la vie réelle. Nous étions empêchés de jouer à ce moment-là, la dégustation. On devait être en tournée à ce moment-là et on n'a pas pu faire ni la première tournée, ni la seconde tournée. Et moi, j'ai besoin de jouer parce que sinon, ça... C'est la cocotte minute. Le mot n'est pas très joli, mais ça me purge. Et là, je ne pouvais pas. Donc, je me suis purgée en écrivant, en fermant les yeux et en laissant mon imaginaire. Donc, cette deuxième partie est un peu différente de ce début qui... Peut-être on peut raconter l'histoire. Effectivement, c'est une personne qui doit retrouver son fiancé, une femme d'une quarantaine d'années qui doit retrouver son fiancé au Pays Basque parce qu'ils ont le désir de peut-être enfin se marier. Ça fait des années qu'ils en parlent. Il est absent. Elle voit une pancarte avec marqué « Emma Auster ». Elle est attirée par ce nom parce que... parce qu'elle vient de lire 1, 2, 3, 4 de Paul Auster, qui est un livre que j'ai adoré, qui parle, c'est pas pour rien, du champ des possibles, d'un même personnage avec 4 possibilités. Et elle va, sur un coup de tête, dire à ce chauffeur de taxi, puisqu'elle est seule et qu'il n'y a pas d'autres taxis et que personne n'est venu la chercher et qu'elle est un peu perdue, c'est un moment un peu comme ça, étrange, elle va dire « c'est moi ». Emma Auster, c'est moi. Et elle va voir jusqu'où ça l'amène. En fait, c'était une idée qui m'est venue il y a 20 ans. J'étais en tournage en Allemagne. À l'époque, je tournais un film qui s'appelait « L'avion » de Cédric Kahn, un film pour enfants. Et comme je suis très désorganisée, je ne commandais jamais mes taxis, donc je faisais toujours la queue. Et combien de fois j'ai rêvé d'aller voir une pancarte « Elisabeth Bonnel, c'est moi ». Mais c'est aussi là, c'est drôle que je vous dise ça parce que c'est les personnages aussi. C'est ce que je fais quand je joue en fait. Là, dernièrement, Claire Poussin, Se souvenir des belles choses, c'est moi. Dernièrement, Hortense de la Villardière, c'est moi. Et de faire ça, mais de faire ça dans la vie réelle, c'est encore autre chose. Et surtout, de voir jusqu'où ça me conduirait. Pas de dire au bout de 5 minutes, non, écoutez, pardon, je vous ai menti. Je voudrais que vous m'ameniez à la bonne destination, tant qu'à faire. Mais non, de voir jusqu'où je pourrais aller comme ça, quoi. Jusqu'où je pourrais me glisser dans la peau de quelqu'un d'autre. Est-ce que je vais me retrouver à un colloque sur les sciences cognitives, obligée de répondre à des questions sans rien connaître des sciences cognitives? Est-ce que j'arriverai à usurper cette identité-là? Combien de temps? Et là, ça me fait penser à une pièce de théâtre que j'aime beaucoup, auquel j'ai beaucoup pensé en écrivant. C'est pour ça que mon personnage dit peut-être que juste en écoutant, je ne fais pas du tout là, pardon, je parle trop, mais juste en écoutant, peut-être que ça suffira. Peut-être qu'en écoutant les autres, j'arriverai à juste à dire un mot ou deux et à faire croire que je suis Emma Auster. Et effectivement, cette pièce s'appelle Yvonne, princesse de Bourgogne, je crois Gombrowicz, oui. C'est un personnage qui se tait. Et du coup, c'est un puits à fantasmes pour tous les autres autour, tout autour, quoi. Ils ne font que soit tomber amoureux, lui prêter tout un tas de pensées. C'est une page blanche sur laquelle on peut tout projeter, quoi. Voilà, et c'est aussi la pièce de Nathalie Sarraute qui parle de ça. Je crois que c'est « Elle est là », le titre de la pièce, d'une personne qui se tait. Et là, tout est possible, en fait.
Mais alors, ce réel, il vous pose quand même problème, et on le voit bien dans le livre, c'est-à-dire que même dans votre écriture, Isabelle Carré, les détails comptent énormément. Tous les détails autour de vous sont très importants. On se demande, quand on lit vos livres, si le réel n'a pas quelque chose d'un peu trop bouleversant.
Oui, c'est drôle que vous disiez ça. Oui, parce que, par exemple, j'ai un exemple très concret. J'aime bien ne plus voir. Je suis très, 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 très myope. Et quand je joue, je ne mets pas de lunettes. Et même ces lunettes, je demande à l'opticien de baisser. Je sais que normalement, on doit avoir 10 sur 10. Je préfère un petit 8, quoi, voire un 7. Parce que sinon, c'est trop net, c'est trop, ça envahit. Je ne sais pas si vous ressentez ça, mais oui, je trouve que la réalité, bah oui, la réalité, on le voit bien en ce moment, est brutale. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'imaginaire. Je ne comprends pas qu'en ce moment, on en parlait avec Nathalie, qui a de chez Grasset, qui a la gentillesse de m'accompagner, qui me disait que bah, les libraires en ce moment, pas chez Mola, mais chez beaucoup de libraires, c'est difficile en ce moment, parce que les gens ont besoin, et je le comprends, d'écouter les nouvelles, de regarder sur leur téléphone portable ce qui se passe avec cette guerre, sont solidaires, et du coup ont besoin voilà, de s'informer, les élections, bon, il y a eu ce Covid, il y a tellement de choses qui fait que bon, on a peut-être l'esprit occupé, on a du mal à se concentrer sur un. Moi, je trouve que c'est le contraire. Sans mettre de côté l'information et sans se couper de la réalité, parce que c'est important d'être en prise avec le monde réel et d'avoir cette empathie pour tous ces Ukrainiens et de suivre, enfin, comme on peut, d'essayer au moins par la pensée d'être avec eux, donner de l'argent, bien sûr, mais voilà, il y a tout ça. Mais en même temps, ça ne nous empêche pas de s'alléger, d'aller dans une librairie et de s'échapper, d'essayer de trouver des soupapes à cette brutalité-là, de trouver des moyens de se consoler avec des livres, avec des histoires, en allant au théâtre, en allant voir des expositions, en lisant. Parce que sinon, comment on fait, quoi ?
Vous avez cité Kundera, mais on a l'impression que même s'il n'y avait pas de livres, même s'il n'y avait pas de théâtre, même s'il n'y avait pas de culture, votre imagination est sans répit en permanence. Vous imaginez, et vous le faites à travers vos personnages, la vie des gens, ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après. Vous observez tout le temps les gens qui sont autour de vous, comme si votre cerveau ne s'arrêtait jamais d'imaginer. Mmh. C'est le cas ?
Oui, c'est vrai que ça fait partie de... Oui, c'est une excroissance, peut-être. On parlait du cerveau tout à l'heure. C'est vrai que c'était embarrassant un peu pendant l'adolescence et pendant un sacré bout de temps, d'ailleurs. Pas que pendant l'adolescence. Mais maintenant, je n'ai plus peur de mes pensées. Et ça fait une sacrée différence. Et peut-être, d'ailleurs, ce livre, c'est aussi une ode à l'imagination et au fait de plus avoir peur de mes pensées et de les laisser libres. Et cette liberté-là que j'ai acquise grâce à l'âge, grâce à l'assurance, à la confiance en moi que m'a donné la maturité. Et qu'est-ce que c'est bon ? Et qu'est-ce que c'est bon de ne pas se censurer ? Il y a une phrase que je cite dans le livre et que j'aime beaucoup citer par rapport à ce livre, c'est une phrase de Baricot, qui dit « S'il est vrai qu'on ne réalise en une vie qu'une partie de ce que l'on a en soi, qu'advient-il du reste ?» Et bien, ce livre, c'est ne pas mettre ce reste de côté. Qu'est-ce qu'on fait de ce reste, quoi ? Ce qu'on a eu peur de voir en nous, ou ce qu'on n'a pas eu le temps, parce qu'on n'a pas le temps de se laisser imaginer, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, ou le chemin qu'on a pris à droite et qu'on aurait peut-être pu prendre à gauche. Qu'est-ce qui se serait passé à ce moment-là ? Tout ce reste, en fait, il existe, en fait. Il nous habite, il est là. On a toutes ces possibilités en nous. Et c'est ça que j'ai vraiment trouvé grâce à l'écriture, quoi.
Mais l'insoutenable légèreté, c'est vous, Isabelle Carré, puisqu'il y a ce côté en permanent très enthousiaste et très léger sur la vie. Et en même temps, on voit bien qu'il y a quelque chose d'insoutenable, de difficile, une lutte, non ?
Ben oui, je pense qu'on est mélangé, on est clair et obscur, c'est tout le temps comme ça, c'est des crêtes, moi et chacun d'entre nous, et c'est pour ça qu'on a besoin de se consoler en lisant un livre et en reconnaissant des choses de nous et en se disant qu'on n'est pas seul.
Et ces phrases que vous retenez par cœur, ces
citations. Oui, c'est des phrases bijoux, j'appelle ça des phrases bijoux. Et c'est exactement ça que je cherche quand je lis des livres, c'est de me dire, waouh, mais alors mon téléphone en est plein. Avant, je les notais, maintenant, je les photographie, mais c'est mieux de les noter. Mais oui, c'est des cadeaux, quoi, énormes que nous font les auteurs, les autrices, et qui nous aident à y voir un petit peu plus clair dans cette forêt obscure de nos vies.
Est-ce qu'il y a une phrase qui a changé votre vie?
Oui. C'est une phrase, oui, alors là, je peux vous le dire, je n'ai pas besoin de chercher. Préférer les risques de la vie aux fausses certitudes de la mort. C'est une phrase que j'ai entendue à un moment où j'étais dans un hôpital psychiatrique, j'étais adolescente, ça n'allait pas bien. Et c'était pas Romy Schneider qui la disait, c'était un de ses partenaires. C'était un film avec Romy Schneider. Et j'ai associé en fait cette phrase avec évidemment mes questionnements et la personnalité de Romy Schneider. Et je me suis dit, tiens, mais c'est la solution. Il faut que je m'inscrive dans un cours de théâtre. Voilà, donc je pense effectivement qu'il y a des phrases qui peuvent non seulement nous faire passer une bonne soirée, mais nous sauver pour un mois ou nous sauver pour toute la vie.
Et dans ce livre, il y a une deuxième partie, donc, parce que vous interrompez votre écriture au moment du confinement. Et vous racontez que vous interrompez votre écriture, puisque c'est le confinement, que vous êtes enfermée chez vous, avec votre époux et vos enfants.
Oui.
Et là, on le voit bien.
Enfin, c'est un deuxième faux moi, parce que autant ce personnage me ressemble, un peu comme dans Les Rêveurs, d'ailleurs. Dans Les Rêveurs, c'est vrai que c'est mon roman le plus autobiographique. Et quand ça me concernait, moi, je restais très proche de moi. Mais quand ça concernait d'autres personnes, de ma famille ou tout ça, là, je tordais la réalité et je lui donnais... voilà, c'était le mentir vrai d'Aragon, quoi. Je pense que c'est important, en tout cas pour moi, pour mon écriture, mais pas que dans cette partie, de partir de points de réalité, comme qu'on veut bien mentir dans la vie. Il n'y a pas des adolescents, là, et... qui ont peut donner ce conseil. Il n'y a pas que les adolescents qui mentent, mais... Voilà, je sais que quand j'ai eu besoin de mentir à l'adolescence, c'était vraiment ça. Je me dis, il faut toujours raconter un tout petit détail vrai pour pouvoir l'enrober après de plein de trucs, parce que sinon, voilà, on n'y croit pas. Et c'est ce que je fais dans l'écriture. Mais c'est ça que j'aime, en fait, aussi dans mon métier de comédienne. C'est qu'on y voit plus clair. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qu'est la fiction? Pour moi, l'idéal, c'est que les spectateurs se disent... Mais c'est pas possible, ce texte, c'est pas elle qui l'a écrit, mais pourtant elle l'a vécu. C'est sûr qu'elle l'a vécu, ça sonne juste. C'est la vérité sensible dont parle Annie Arnaud. Mm-hmm. Cette réalité sensible-là, voilà. Et, donc j'aime effectivement ces effets de réel. Il y a donc un chapitre qui s'appelle comme ça, d'ailleurs, effet de réel. Mais je suis partie en fait de. Pourquoi j'ai déchiré le roman en deux comme ça? C'est parce que c'était tellement. Surréaliste ce qu'on était en train de vivre, que moi qui étais dans une fiction pure, je me retrouvais dans la vie aussi, dans la fiction. Donc j'arrivais plus à suivre ma fiction à moi. Il fallait que je prenne en compte la fiction qui était nos vies à ce moment-là, à savoir cette espèce de dystopie pour adolescents prépubères qui était le Covid pendant ces mois-là qu'on a vécu. Le prendre en compte, le dire, ok, on est là-dedans pour pouvoir repartir à nouveau dans la fiction.
Mais ce confinement, il vous a mis dans un état de panique. On a la sensation, quand on lit cette partie-là, que finalement, il y a une sorte de bouffée très différente dans votre façon
dans l'écriture,
d'écrire.
Oui.
Qui est aussi de raconter l'angoisse, la panique, et du coup, de laisser libre cours à des fantasmes, à une histoire un peu différente, mais par effet de panique quand même, non?
Non. J'ai eu peur de rien dans mon imaginaire,
même
dans mes
fantasmes. Même pas de pas pouvoir recommencer votre vie.
Ben, à un moment, je parle, oui, de la difficulté. Peut-être que certains d'entre vous ont ressenti ça aussi. Bon, d'accord, c'est dur d'être enfermé. On a du mal à s'habituer, mais une fois qu'on est enfermé, comment on va ressortir? On a cette possibilité incroyable de s'adapter et sortir faisait presque peur finalement. Je parle de ce phénomène japonais, hikikomori, où les Japonais, en fait, ça c'est un phénomène au Japon, mais nos adolescents, on en parlait tout à l'heure, qui ont vécu le confinement, ils se sont attachés à cette façon de vivre repliée derrière les ordinateurs. À nous maintenant, à leur botter les fesses et à leur dire de sortir. C'est le monde à l'envers. Moi qui étais une maman qui me disait « il va falloir que je leur dise de rentrer à l'heure », c'est le contraire. Je leur dis « sortez, allez avec des amis ». C'est étonnant ça. Donc c'est quelque chose qu'on a tous finalement vécu, et même les jeunes. Mais ce phénomène japonais, et Kikomori, je suis nulle en langue, hein. Eux, c'est vraiment un phénomène très important au Japon, où ces jeunes, surtout hommes, il y a beaucoup d'hommes, plus d'hommes que de femmes, vivent par procuration et veulent plus sortir de chez eux. Plus du tout. Et les parents se désespèrent parce qu'ils restent... Voilà, donc j'ai parlé de ça, effectivement, et je disais avec humour, quoi, est-ce qu'on va devenir des hikikomori ?
Mais dans votre livre, donc pendant cette période de confinement, qu'est-ce qui se passe ? Finalement, vous vous installez un peu mieux dans votre imagination, avec moins de quoi, de culpabilité, de complexe, pour pouvoir arriver
c'est
à une maturité.
Ce que je disais, qui ferme l'infini, qui cherche l'infini n'a qu'à fermer les yeux. J'ai laissé libre cours à tout cet imaginaire, et c'était plutôt savoureux, même si certains fantasmes étaient douloureux. Je parle de jalousie. Je parle de cette peur d'adultère, je parle de tous ces fantasmes avouables, non avouables, et c'était pas de la panique, pas du tout, c'était au contraire assez incroyable de ne rien censurer et c'est ce que permet l'écriture, et ça je m'en suis rendu compte. J'avais très peur la première fois que j'ai rencontré Juliette Jost chez Grasset, donc qui est mon éditrice qui est une femme extraordinaire. La première fois, j'avais donc le manuscrit des rêveurs dans mon sac, et je l'ai rencontré, on a déjeuné ensemble, et j'ai passé mon temps à lui parler déjà, parce que vous verrez que c'est un personnage qui est présent dans le jeu des si, de cette photographe, Viviane Meyer, qui ne montrait pas ses photos, et qui ne les développait même pas pour la plupart. Pour elle, ce qui comptait, c'était juste le déclic. Et je lui ai parlé de ça en disant, voilà, peut-être qu'en fait, non, je vais le garder pour moi. Désolée, on s'est parlé pendant une heure et demie. Je ne lui ai même pas raconté l'histoire. Je lui ai dit que j'avais écrit ce manuscrit, mais que finalement, j'allais le garder pour moi. Elle était un peu étonnée. Et puis, il m'a fallu du temps, voilà, avant de lui confier. Et je sais plus ce que je disais.
Je vous demandais si en fait vous aviez, parce que quand même dans ces pages sur le confinement, de temps en temps vous mettez quelques informations.
Si je parlais de la liberté, ça y est.
Ok.
La liberté. Et en fait j'avais peur de pas avoir. J'avais peur qu'un éditeur, ça soit un peu comme un producteur au cinéma, et que coupe ceci. Ah bah là non, ton ellipse est trop grande. Ah bah là, il y a trop de figurants, là, ça va coûter trop cher, comme dans un scénario où on est quand même très dirigé par un producteur quand on est scénariste et metteur en scène. Et aussi au théâtre, non, on ne va pas faire des pièces dramatiques. En ce moment, les gens ont besoin de rire, il faut des comédies. Mais je trouve que la littérature, ça reste un espace de liberté, mais complètement hallucinant, quoi. Peut-être parce que c'est moins cher que le cinéma, à produire, sans doute. Là aussi, c'est une question d'argent. Mais quelle liberté ça offre. C'est incroyable. On peut parler de tout. On peut aborder tous les sujets. Et les gens sont partants.
Et là, vous ouvrez la porte aussi à une question qu'on voit assez peu dans la littérature féminine aujourd'hui, en tout cas des auteurs qui n'ont pas cette posture au départ. Vous accordez du temps sur la sexualité féminine.
Oui, oui, c'est en fait après une interview de Virginie Despentes qui parlait du fait que finalement on avait des fantasmes masculins, même nous, les femmes, voilà, qui on vivait avec toujours un peu ces mêmes références. La belle endormie qu'un l'homme réveille d'un baiser. La femme prisonnière qu'on va sauver, la femme qu'on va capturer sur son cheval, mais qui va être très contente d'être raptée comme ça. Bon, voilà, toute cette imagerie-là, Et je ne parle pas des déesses emportées de toute la littérature liée à l'Antiquité, bon, grec. Enfin, on pourrait développer ça à l'infini. Et Virginie Despentes disait finalement, il y a beaucoup de choses qui restent à inventer, et surtout du point de vue féminin. Alors j'ai eu envie d'écrire ce qui me foutait la trouille, des scènes de sexe avec le désir, je ne sais pas si j'y parviens, mais d'essayer de réinventer des choses, oui, et de les écrire un peu différemment.
Pourquoi c'est ce qui vous foutait le plus la trouille? Parce que au cinéma et au théâtre, c'est ce qui fout le plus la trouille?
Non, c'est parce que c'est un peu comme... je pense que c'est des exercices qui ont été tellement faits. C'est comme des scènes d'amour aussi, hein. C'est pas que des scènes d'amour. Bon, bah, une fois qu'on a dit « je t'aime », et pour pas que le mot soit galvaudé, y a des grands mots comme ça. Je vais aller à l'extrême de la sexualité, mais on peut parler aussi de la foi. Le mot « foi », parler de la foi, parler de cette verticalité-là, parler de Dieu, c'est vachement compliqué, quoi. Et c'est comme s'il fallait réinventer avec d'autres des situations, d'autres mots pour leur... On voit bien d'ailleurs quand on déclare son amour. Il y a une chanson très jolie de Bertrand Belin. Je te dis des choses nouvelles. J'ai envie de te dire des choses nouvelles. J'ai envie de te dire que je t'aime, mais avec des mots nouveaux, avec des mots neufs. Il y a des choses qu'on doit sans cesse réinventer pour être percuté à nouveau.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'Emma Bovary dans ce livre, puisque d'abord vous la citez, ensuite votre personnage devient une Emma en changeant de nom et de personnalité, et finalement même dans ce passage sur le confinement, il y a quelque chose d'Emma Bovary, de cette femme qui imagine et qui imagine aussi une vie sexuellement plus vivante que sa vie à elle. Donc il y a beaucoup de Flaubert dans ce livre.
Oui, c'est vrai que je voulais, c'est peut-être un peu lourd, mais je sais pas, j'avais envie de, je pense toujours à cette phrase Emma Bovary, c'est moi, et je pense aussi beaucoup à cette question qui revient sans cesse, mais qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est inventé dans chacun des livres que j'ai écrits, et je pense aussi à ce qu'on reprochait beaucoup, l'entourage de Proust lui reprochait toujours de parler des gens autour de lui et de se fâcher avec tout le monde. Et oui, on prend de ce qu'on est, évidemment. On prend de ce qu'on est, on part de ce qu'on est, mais peut-être pour mieux, pour mieux s'échapper, pour aller beaucoup plus loin. Tout ce que j'ai pas pu vivre dans ma vie, je le vis en littérature ou je le vis sur scène. Dieu merci, j'ai jamais eu le désir de tuer quelqu'un, mais ça m'arrive de le faire sur scène et je m'en porte que mieux parce que c'était une catharsis, qu'on peut aussi vivre d'ailleurs en étant spectateur, au combien. Mais on se met dans le noir et on regarde ce qui se passe sur l'écran, sur scène, et du coup voilà, on est libéré, on peut tout vivre, il y a un cadre. Et on se sent à l'abri.
Mais vous changeriez de vie, enfin, c'est une idée qui vous traverse l'esprit régulièrement, de vous dire oh, j'arrête tout.
Oui, j'ai pensé, déjà, comme toute Parisienne qui se respecte, quitter Paris, puisque je suis née à Paris et comme toute Parisienne, oui, je rêve de mer, je rêve de campagne, je rêve, donc j'ai pensé à ça, bien sûr. J'ai pensé aussi à un moment, puisque je me sens si heureuse quand j'écris. Et il y a tellement... J'ai tellement le sentiment d'un accomplissement dans cette bulle de fiction où j'ai pas simplement à charge la trajectoire d'un personnage, mais tous les personnages, c'est plus, quoi. C'est encore mieux, quoi, que de jouer. Sauf que je me suis rendu compte, justement, pendant ce confinement, et peut-être le fait d'avoir été empêchée, même avant... on était au Théâtre de la Renaissance, on jouait la dégustation avec Bernard Campan et toute cette troupe merveilleuse, tous ces comédiens que j'adore. Tout à coup, on nous a dit « vous n'allez plus pouvoir jouer que le week-end ». Donc, on faisait Avignon, on jouait 5 fois le week-end. Et les gens venaient. Ils venaient à 5h de l'après-midi. C'est incroyable. Donc, c'est tellement bouleversant, ça. Qu'en fait, non, je crois que je ne peux pas me passer d'être sur scène. Peut-être le cinéma, oui. Mais être sur scène, il y a quelque chose qui est tellement palpable de communion, en fait, d'être ensemble. C'est le discours que j'ai fait aux Molières. C'est vrai que je pense qu'il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'art qui permet autant d'être ensemble, de communier ensemble, d'être dans cette fragilité-là aussi. Parce qu'un acteur, il peut se tromper, il peut avoir un trou, il peut... Et c'est ça qu'on vient voir aussi. On ne vient pas le voir tomber, mais voir comment il va se relever. J'ai vécu une expérience complètement incroyable au théâtre du Rond-Point, où je jouais une femme à Berlin, qui est donc un texte, qui est un récit qui a été anonyme pendant très longtemps, d'une femme pendant l'entrée des Russes à Berlin pendant la guerre. D'ailleurs, j'y pense beaucoup en ce moment avec l'Ukraine, parce que et ces femmes, il y a eu des viols, c'était terrible. Et cette femme raconte ça. Donc pendant 1h40, je racontais ça, ce récit, donc cette femme qui a existé, qui racontait sa vie. Et sans doute à cause de ça, c'était tellement bouleversant, je me suis retrouvée à faune. Moi, ça m'était jamais arrivé d'être à faune. J'ai, Dieu merci, une bonne technique théâtrale. Donc, normalement, ma voix porte et voilà. Et là, j'étais à faune pendant une semaine. Et j'arrive au Rond-Point et je dis à Jean-Michel Ribes, bah là, je ne vais pas pouvoir jouer, on est d'accord. Je parlais comme ça. J'avais vraiment plus de voix du tout. Même pas un petit filet de voix, je veux dire. Il m'a dit, non. On va te mettre un micro. Mais je dis, mais même avec un micro, c'est pas possible, 1h40. C'était dingue.
Ouais.
Et il a fait une annonce. Il a dit non, mais si tu n'y arrives plus, ben on arrêtera. OK, donc on se lance vraiment comme sur une piste noire avec de la brume, quoi, du brouillard. Et il a simplement dit aux gens, parce que les sièges, la salle n'avait pas été encore refaite, les sièges grinçaient. Donc il a juste dit aux gens, s'il vous plaît, je vous demanderai d'essayer de ne pas trop bouger parce que ça fait beaucoup de bruit. Et comme il y a ce problème, etc., voilà, Isabelle a cette voix, qui est donc on vous prévient si c'est trop dur pour vous, vous pouvez partir doucement. Donc, et les gens sont restés en apnée pendant 1h40. Et j'ai eu une révélation. Je me suis dit, mais les gens viennent aimer, ils viennent pour aimer. J'étais persuadée parce que, oui, à Paris, il y a tellement de pièces et ici aussi. Enfin, je veux dire que, voilà, qu'on venait, alors, voyons voir, alors, qu'est-ce que ça, OK, cette pièce, OK, d'accord, bon. Pour critiquer un peu, quoi, est-ce que ça va être bien? Oh, je suis pas sûre, c'est chiant, le théâtre, enfin, voilà. Eh ben non, pas du tout. Je me suis vraiment rendu compte, et ça ne me quitte plus maintenant, cette pensée, que les gens viennent au théâtre pour aimer, quoi. Et ça change tout.
Et vous, est-ce que vous tombez amoureuse comme ça de tous les gens que vous croisez au tout début du livre, votre personnage?
En fait, elle a envie de photographier les gens qui sont avec elle dans l'avion. Elle regarde tout le monde et elle a une certaine tendresse, hein, même pour les plus agaçants. Malgré tout, elle a un certain attachement comme ça, immédiat.
Hier, j'étais dans le métro et il y a un homme qui en a agressé un autre. Et cet homme, pas trop gravement, mais comme... Et cet homme qui a agressé était sans doute drogué et très mal. Et j'ai pas arrêté de dire à l'autre et aux gens, mais il est pas bien du tout, mais il est pas bien du tout, il est très très mal, il est en souffrance terrible. Et il y a une dame qui m'a dit, oui, mais enfin ça se voit que c'est pas vous qui avez été agressé, hein. Je dis oui, c'est vrai, j'avais tellement envie d'excuser cet homme tout en ayant beaucoup de compassion pour celui qui s'était fait agresser, bien sûr, mais. Mais l'autre était tellement mal. Et en même temps, il foutait la trouille, hein, je suis d'accord. Mais et la dame, ah ben, ça se voit que c'est pas vous qui avez été agressé. Et les autres, tout le monde disait, oui, ah bah oui, c'est ça, bon dos de l'excuser.
Mais vous aimeriez bien.
Ben, c'est lui qui souffle le plus quand même. Hein. Ouais.
Avant qu'on aborde la mère dans son jardin, je voudrais vous poser une question un peu plus précise. Vous démarrez votre livre par ces phrases. Je voudrais savoir à qui vous vous adressez, vous, en écrivant. Je sais bien que tu ne crois pas en Dieu, encore moins aux fantômes. Shakespeare non plus. Cela ne l'a pas empêché de faire errer l'âme du père d'Hamlet un certain temps, le temps que son fils le venge. Laisse-moi le temps de me venger de ta disparition. accepte mon jeu des si et faisons comme si je pouvais te retrouver toujours. À qui vous vous adressez, Isabelle Carré?
Je vous le dirai pas. Joker. Okay. J'essaie de répondre à toutes les questions.
Mais et là, pas celle-là.
J'ai pas joué dans les émotifs anonymes pour rien.
D'accord. Bon, mais on restera quand même sur l'idée que on est bien d'accord. Là, vous ne vous adressez pas que à vos lecteurs.
Absolument.
Absolument. Alors, on enchaîne. Ce mystère. Donc, je le disais tout
on
à l'heure.
On passe des messages aussi dans les livres, vous évidemment.
Vous venez avec aussi un album illustré, donc La mère dans son jardin. Dans lequel, voilà, merci, super, la technique suit, même si je suis en train de massacrer les micros. On a l'impression, donc, on le disait tout à l'heure, et donc c'est pas qu'une impression, que vous avez sorti un extrait de ce livre, parce que dans votre livre, il est question d'une nounou, en tout cas d'une famille, qui est un thème qui vous est extrêmement cher.
Oui, oui, la famille, oui, oui, bien sûr. Et Mary Poppins. Ah, Mary Poppins, c'est... Oui, c'est mon héroïne préférée... Depuis toute petite.
Mais vous rêvez d'être un peu Mary Poppins, quand même.
Alors, non, j'ai renoncé à ça.
Ça vous a effleuré à un moment donné, mais finalement...
J'adorerais être Mary Poppins, mais je ne suis pas à la hauteur et je ne cherche pas à l'être.
Mais c'est un modèle de quoi? De on peut tout transformer dans la vie, il suffit d'un petit peu de bonne volonté?
Oui, le morceau de sucre qui aide la médecine à couler, c'est... de faire un petit peu de la magie avec les enfants pour les aider à ranger leur chambre. C'est de voir le bon côté des choses dès qu'on le peut. Et c'est surtout réenchanter, garder l'enfance le plus longtemps possible. Je pense que c'est vraiment le meilleur âge de la vie. J'espère ça, ouais, j'espère ça pour mes enfants. Mais j'ai bien conscience de mes limites et je cherche. C'est drôle parce qu'il y a le journal Elle qui m'a demandé d'écrire un article sur le jour où je suis devenue mère pour la première fois. Je n'ai pas le droit de vous le dire, c'est pas parce que c'est pour elle, mais j'écris là-dessus et sur le fait que je pense que j'ai été mère pour la première fois, vraiment. Le jour où j'ai compris que je serais absolument faillible et certainement pas une mère parfaite et certainement et pas Mary Poppins, malheureusement non, mais que voilà, mes erreurs seront les miennes et mes enfants auront la mère qu'ils doivent avoir et non pas une mère d'emprunt qui essaierait de suivre le mode d'emploi d'un tel, le mode d'emploi de ceci, le modèle de Mary Poppins comme ça, voilà, mais qui voilà, ça sera leur mère à eux.
Mais c'est un espace singulier pour vous, l'enfance, et c'est pas la première fois qu'on le voit. Là, dans ce livre-là, vous écrivez quand même que les adultes mettent beaucoup de temps à tenir leurs promesses, par exemple. Donc vous êtes quand même assez
vrai,
dur. Oui, mais vous êtes assez dur sur ce moment où l'enfance se termine.
Ben, sur les promesses, franchement, tous les enfants, nous, on a vécu ça quand on est enfant, puis on le voit bien, on le répète. Oui, on ira. Oui, oui, on ira. Mais j'étais dit qu'on irait. Oh, mais laisse-moi, on ira plus tard. Et puis plus tard et toujours plus tard. Et on remet les choses. Voilà. Et l'enfant, lui, il ne comprend pas parce qu'il n'a pas cette notion du temps qui est la nôtre. Donc on ira, mais quand? Mais il faut tellement les tenir avec les enfants, les promesses. C'est tellement important. Tellement important. Et une fois qu'on sait tenir ses promesses et qu'on lui promet, on lui demande de tenir les siennes, il est obligé de le faire. C'est très pratique. C'est donnant. Mais alors l'histoire de ce livre, en fait, c'est pas. Moi, j'avais pas prévu ça, mais c'est Juliette Josse qui m'a dit, écoute, est-ce que ça t'intéresserait d'écrire? Je suis sûre que comme tu es proche de l'enfance, effectivement, il y a quelque chose dans tes personnages, dans le.
Ah oui.
Les rêveurs. Ben, je parlais beaucoup de ma propre enfance. Du côté des Indiens, il y avait ce petit Ziad. Qui était un petit garçon que j'ai tellement aimé raconter, voilà. Et
vous avez une connexion quand même qui reste en enfant. Ouais. Il y a une part de vous qui en fait reste très naturellement dans l'enfance que vous préservez.
J'ai fait un métier, je joue. J'ai dû changer de vocable avec mes enfants parce que je leur disais maman par jouer. Ils trouvaient ça dégueulasse que j'aille jouer sans eux. Donc j'étais obligée de dire maman par travailler. Même si parfois c'était pas toujours crédible, je me souviens d'une fois avec une baguette magique de fée. C'était un spectacle de Jean-Michel Ribes. D'ailleurs, il est très présent là aujourd'hui avec nous. Et j'étais à maman va travailler avec mon costume de fée. C'était vraiment pas crédible. Ouais. Mais...
Alors, dans.
Et c'est Juliette Jost donc, qui m'a dit tu devrais écrire pour l'enfance. Et je n'avais pas d'idée. Mais j'étais plongée dans le jeu des scies. Et il y a un rêve dans le jeu des scies qui s'appelle La mère dans son jardin. Et j'ai donc adapté ce rêve, qui ressemble plus trop d'ailleurs, c'est plus tout à fait le même rêve, pour les enfants. Et j'avais envie d'écrire un livre pour les enfants qui les aiderait à surmonter leur peur. La peur de l'inconnu. Cette petite fille s'appelle Marie. Elle part déménager, donc elle habite la banlieue à Pantin. Elle part déménager en Bretagne et voilà, elle quitte son école, elle quitte ce qu'elle connaît, même si c'est pour aller au bord de la mer, pas tout à fait au bord de la mer, mais pas trop loin de la mer quand même. Bon, c'est quand même un sacré changement. C'est d'autant plus un sacré changement que sa mère, en fait, le fait parce qu'elle est enceinte et qu'elle veut que son petit frère naisse au grand air. Alors là aussi, c'est l'inconnu. Qu'est-ce qu'il y a dans ce ventre qu'on ne voit pas ? Quelle va être ma place ? Et puis, il y a cette visite, cette fameuse visite promise et toujours remise à plus tard, au bord de la mer. Et qu'est-ce qu'il y a sous l'eau ? Il y a des algues, des poissons. Elle a vu des documentaires sur les requins, les méduses. Tout ce qu'on ne voit pas, en fait. Tout ce qu'on ne voit pas et qui fait peur. Juste par rapport aux illustrations, j'ai juste eu une seule consigne pour Kasia, c'était de lui dire que je voulais qu'il y ait très peu de couleurs au début, quasiment du noir et blanc ou une ou deux couleurs, et que plus on aille dans l'histoire, plus ça devient coloré. Voilà, parce que plus la petite Marie arrive à dompter ses peurs, plus son monde s'ouvre, plus les choses se réenchantent, quoi.
Alors, donc, dans le jeu des scies, il est aussi question de cette nature, de votre communion à la nature. C'est une de vos thématiques aussi qui est très forte, Isabelle Carré. Et là, on a l'impression que c'est encore pire, quand même. Hein. Vous avez un lien avec la nature, les arbres. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre presque du vital pour vous au quotidien, non ? Mm-hmm.
Oui, en même temps, elle me fait peur. Hein. J'ai peur des bêtes. J'ai peur des insectes. Je suis complètement phobique. Donc, j'avais un passage dans Les Rêveurs où je racontais cette rassurance que j'avais quand j'étais enfant, que j'avais du mal à m'endormir. J'imaginais que la Terre était vraiment une bête, une grosse bête. La croûte terrestre n'était pas la croûte terrestre, mais le dos d'un énorme animal qui nous porterait et qui nous aimerait et nous bercerait sur son dos. Et serait heureux qu'on dorme sur son dos.
Et c'est ça qui vous a aidé à avoir moins peur ?
Ça m'aidait à m'endormir et ça continue d'ailleurs, j'y pense de temps en temps, à personnifier. Je personnifie, oui, la terre, les arbres aussi. Pour moi, les arbres, là, c'est dans le jeu des scies. Et en fait, il y a eu des grandes expositions dernièrement et des grandes enquêtes sur les arbres qui montrent bien que les arbres ont une mémoire. Les arbres ont une sensibilité dans nos rapports avec eux. Peut-être qu'ils nous reconnaissent, ils nous sentent, ils peuvent même avoir de la reconnaissance. C'est sidérant. Donc il y a un échange, quoi. Il y a une ouais.
Et vous avez la main verte ?
Et la main, non, pas du tout. mais du coup, il me renvoie quand même, voilà, c'est ça. Évidemment, et puis aujourd'hui, de toute façon, on a toutes les raisons de la considérer avec ce respect et j'ai envie même de dire cet amour, quoi.
Dans le jeu des scies et dans la mère dans son jardin, il est question de deux petites filles à sauver, deux petites filles à réparer, deux petites filles qui ont un cap à passer. Mm-hmm. C'est quoi le lien entre ces deux petites filles ?
Dans la mer, dans son jardin
et dans le jeu des scies.
Et dans le jeu des scies.
Suzanne.
Ouais, c'est vrai. Je n'avais pas pensé. Ah oui.
Alors, c'est qui cette petite fille ? Parce que cette petite fille qui revient dans vos deux ouvrages-là.
Ouais.
Vous venez avec deux histoires dans lesquelles il y a une petite fille qui a quand même sérieusement besoin d'aide.
Besoin d'aide, ouais.
Ouais, c'est qui cette petite fille ?
Bah, ça doit être un petit peu moi.
Ok. D'accord. Je ne vous demande pas plus.
Les enfants. Ont besoin de nous, enfin je parle de oui c'est moi oui bien sûr mais ils ont oui J'adore La Nuit du Chasseur. Je pense que vous partagez cette passion. Ceux qui n'ont pas encore vu ce film, voyez-le. Et la fin, Liliane Guiche qui parle des enfants et qui disent, mais les enfants, les petits, ils endurent. Ils endurent. Ils ont besoin de nous et ils ont besoin qu'on les protège. Regardez comme ils endurent. Voilà, rien que de dire ces mots et de repenser à cette scène, je peux pleurer. Je pense que oui, l'enfance, c'est ce qu'on doit préserver. Je parlais de préserver la planète, bien sûr, mais l'enfance, c'est tout ce qui touche à l'enfance. C'est pour ça, c'est pas pour rien que je me suis investie dans une troisième association pour les enfants, là, SOS Village d'enfants, qui s'occupe de ne pas séparer les fratries d'enfants placés. C'était Annie Dupéret, c'est toujours Annie Dupéret qui est la marraine de cette association. Et voilà, je lui prête main forte. Nous serons les deux marraines maintenant. Et j'ai une autre association dont je m'occupe depuis 30 ans, waouh, qui s'appelle Un enfant par la main, qui s'occupe de parrainage d'enfants dans le monde. J'ai découvert une autre association qui s'appelle Pour un sourire d'enfant, grâce au tournage de Bertrand Tavernier qu'on a fait au Cambodge. Et c'est une association extraordinaire de retraités qui sont partis au Cambodge et qui ont créé tout ça. Et je dis tout ça, c'est presque une ville. C'est un énorme village où ils aident les enfants, les scolarisent, leur trouvent les enfants de la déchetterie de Phnom Penh. Bon, voilà, et c'est quand je vois ça, moi, je me dis, mais oui, on a tellement à faire, quoi. Tellement à faire.
Alors, on va finir avec ça aussi. Dans vos livres, il y a autre chose qui est très présent, Isabelle Carré, c'est le cauchemar, le rêve, enfin, la vie psychique parallèle.
Ouais. Oui, bah encore une fois, ouais, l'imaginaire...
Celui-là, il n'est pas contrôlé quand même. Et on le voit bien, Suzanne fait beaucoup de cauchemars.
Sur les rêves, ouais.
Là, Marie, dans cet album illustré, en fait, fait un drôle de rêve qu'on va pas dévoiler.
Oui.
Mais qui est toujours aussi un peu sur le cauchemar. Vous en avez parlé tout à l'heure. Vous avez dit qu'après, finalement, un tournage, vous aviez été presque habitée par ce personnage que vous avez quitté.
Mais je pense que c'est une chance d'avoir... moi, j'ai fait énormément de cauchemars quand j'étais jeune. Et je continue à faire beaucoup de rêves, moins de cauchemars. Mais bon... mais c'est une chance, en fait. C'est ce qu'il faut dire aux enfants.
Vous les notez ?
Non.
Vous vous en souvenez ?
Mais je m'en souviens très, très bien, ouais.
Longtemps ?
Longtemps, ah ouais, ouais, ouais.
Vous avez des rêves récurrents ?
Ouais.
Que vous reprenez ?
Je vais m'allonger. On me dirait combien je vous dois.
Ben, je n'hésiterai pas. Ça, vous pouvez compter sur moi. Mais il y a des rêves que vous reprenez parce qu'il y a des gens qui sont capables de se lever le matin et de se dire « c'était quand même super bien, ce soir, je reprends mon rêve ». Vous savez faire ça, vous ?
Ah non, alors reprendre mon rêve, non, je n'irai pas jusque-là. Mais ce que je veux dire par rapport aux enfants qui font des cauchemars et tout ça, mais c'est une chance. C'est une chance. C'est une chance de faire beaucoup de rêves. C'est une chance de se souvenir. Et c'est une chance d'avoir accès à ça, en fait. Parce que ça a grandi énormément votre conscience. Pourquoi ? Ça a grandi votre conscience de vous-même, de là où vous en êtes, de vos peurs, du chemin qui reste à parcourir, de comment on peut se rassurer.
Ça vous raconte, quoi.
C'est des outils. Ce sont des outils, en fait.
Qu'est-ce que vous en faites de vos rêves, Isabelle Carré ?
Je les transforme en livres. ils m'habitent. Voilà, le premier livre, ça s'appelait Les Rêveurs, quand même, c'est pas pour rien.
Il y a un rêve qui vous a déjà aidé pour un rôle ?
Oh oui. Bah tiens, je parlais de Shakespeare. Ça se passait très mal. Le metteur en scène était complètement à la rame. C'est rare que je dise ça, mais là c'était vrai. Je trouve toujours quelque chose de positif, mais là c'est vraiment pas grand chose de positif. Pourtant Shakespeare, mince, c'était une drôle de chance de jouer ça. Et du coup, il y avait des tensions entre les acteurs. Et j'ai rêvé du fait que j'étais pas en train de jouer, mais de faire un gâteau. Et que mes partenaires, du coup, étaient toujours en train de dire « Non, c'est pas cet ingrédient-là qu'il faut mettre. Non, là, il faut que tu rajoutes de ça. Non. » Ils s'engueulaient comme ça sur mon gâteau. Et je finis par me dire « Peut-être que ça ne sera pas ma recette. » Peut-être que voilà, ça va être compliqué de faire ce gâteau et qu'il sera raté. Je sais pas comment il sera. En tout cas, c'est pas mon gâteau, mais c'est mon moule.
Pas mal. Ben, on va rester sur ça. Merci Isabelle Carré.